Chapitre 29. Apparition. Dernier bulletin de Sacha, bulletin Rusglais numéro 8, sujet Tovarich, Tovalich. À l'attention de nos hôtes américains. Franchement, les amis, je ne me souviens pas de la dernière fois qu'on m'a appelé ainsi. Pour un russe du 21e siècle, cela date du cuirassé Potemkin, un souvenir de l'époque des casquettes en drap où Vladimir Ilitch haranguait les ouvriers depuis le marchepied d'un wagon. Depuis que je suis petit, c'est Bratets ou Drujok. Faites votre choix. À votre service, camarade Kovalev. Floyd en riait encore quand il fut rejoint par Vassili Orlov, en route pour la passerelle, qui traversa en flottant la cabine d'observation.
Ce qui me stupéfie, Tovarich, c'est que Sacha ait trouvé le temps d'étudier autre chose que la technique. Il ne cesse de citer des poèmes et des pièces dont je n'ai même pas entendu parler. Et il parle mieux anglais que Walter, par exemple.
C'est parce qu'il s'est tourné vers la science que Sacha est, comment dites-vous, la brebis galeuse de sa famille. Son père était professeur d'anglais à Novosibirsk. Il n'avait le droit de parler russe à la maison que du lundi au mercredi. Du jeudi au samedi, c'était l'anglais.
Et le dimanche?
Oh, le français ou l'allemand, une semaine sur deux.
Maintenant, je vois exactement ce que vous entendez par « Nekulturni ». Cela lui va comme un gant. Sacha se sent-il coupable de sa désertion? En sortant d'un milieu pareil, comment a-t-il pu devenir ingénieur?
À Novosibirsk, on apprend très vite qui sont les serfs et qui les aristocrates. Sacha était un jeune homme brillant, mais aussi ambitieux.
Tout à fait comme vous, Vassili.
Et toi aussi, mon fils! Vous voyez que je peux citer Shakespeare.
Pouche-moi! Qu'est-ce que c'est que ça?
Floyd n'avait pas de chance. Il flottait en tournant le dos au hublot d'observation et ne vit rien du tout. Quand il se retourna plusieurs secondes plus tard, il n'y avait plus que l'image familière de Big Brother entaillant le globe nuageux de Jupiter, spectacle inchangé depuis qu'ils étaient là. Mais pour Vassili, pendant un instant qui resterait à jamais fixé dans sa mémoire, la silhouette quadrangulaire tracée au cordeau s'était remplie d'un paysage nouveau et totalement impossible. C'était comme si une fenêtre s'était brusquement ouverte sur un autre univers. Cette vision dura moins d'une seconde, et son battement de paupières involontaire en marqua la fin. Il eut devant les yeux non plus des étoiles dans le ciel, mais une moisson de soleil, comme le cœur surpeuplé d'une galaxie, ou l'intérieur d'un amas globulaire. En cet instant, Vassili Orlov oublia pour toujours le firmament terrestre qui lui semblerait désormais d'un vide intolérable. La puissance d'Orion, la splendeur du Scorpion, tout lui paraîtrait faible, insignifiant, de pauvres étincelles indignes d'un second regard. Quand il osa rouvrir les yeux, tout avait disparu. Non, pas complètement. Au centre exact du rectangle d'ébène aussitôt reparu, luisait encore faiblement une étoile. Mais une étoile ne bouge pas quand on la regarde. Orlov cligna des yeux une seconde fois pour éclaircir son regard mouillé de larmes. Oui, cela bougeait vraiment. Ce n'était pas son imagination qui lui jouait des tours. Un météore? Pour indiquer le choc qu'avait subi l'ingénieur en chef Vassili Orlov, il suffit de dire qu'il se passa plusieurs secondes avant qu'il se souvienne qu'il n'y a pas de météore visible dans un espace dénué d'atmosphère. L'étoile se changea soudain en traînée lumineuse qui disparut derrière Jupiter le temps de quelques battements de cœur. Vassili retrouva son sang-froid et redevint l'observateur calme et sans passion qu'il était censé être. Il avait déjà pu estimer correctement la trajectoire de cet objet, lequel, sans aucun doute possible, se dirigeait directement vers la Terre.